Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate!
Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ici sur Radio Pirate, la radio qui pirate ton confinement. Depuis la crise du coronavirus, le début de la crise du coronavirus, notre attention est tantôt portée sur la situation à l'international, vers les États-Unis ou le Brésil, afin de peut-être tenter de se rassurer sur l'état de notre système médical, tantôt sur la France hexagonale et souvent sur Paris. Aujourd'hui, nous allons tenter de nous décentrer un petit peu et de regarder ce qui se passe dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que les collectivités d'outre-mer, où le Covid a aussi frappé. Nous allons faire un descriptif de la manière dont ces territoires ont pu gérer la crise. Pour parler de ce sujet ce soir, je suis accompagné d'Andy. Bonsoir Andy.
Quoi ?
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Moi, du coup, je suis Andy, je suis Guadeloupéen, j'ai vécu la majorité de ma vie en Guadeloupe. Je suis parti à 17 ans pour faire mes études. J'ai fait une licence en sociologie économique. Ensuite, j'ai fait 2 ans à Sciences Po Lyon et je suis retourné bosser en Guadeloupe pendant 2 ans. Donc, ça m'a permis de la vivre un peu différemment, mais je suis revenu vivre à Paris il y a 4 ans maintenant. Donc, je reste en lien avec la Guadeloupe, j'y suis retourné 2 fois l'année dernière, je bosse avec des organisations là-bas et surtout j'ai de la famille là-bas, notamment ma mère. C'est plutôt par rapport à ça que j'ai pu avoir des infos et puis de toute façon, en tant que Guadeloupéen, on essaie de rester concerné par ce qui se passe là-bas. Je me suis dit que ça serait intéressant qu'on puisse en discuter. Voilà.
Bien. Merci. Et nous sommes aussi accompagnés de Lyria. Bonsoir Lyria. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, bonsoir. J'ai grandi à Tahiti, en Polynésie française. Et je suis partie, pareil, à 17 ans pour faire mes études. Du coup, j'ai vécu 8 ans à Paris et maintenant je suis sur Toulouse. Et du coup, je retourne à peu près tous les 2 ans à Tahiti, voir mes parents qui vivent toujours là-bas. Et j'ai suivi un peu la situation, comment ça se passait là-bas à travers mes parents et à travers des amis qui vivent là-bas.
D'accord, super. Donc, effectivement, nous sommes tous en France hexagonale. Donc, nous parlerons de ces sujets sans grande prétention. C'est-à-dire que nous n'étions pas là au moment du début de la crise, nous n'étions pas au cœur de l'action, mais il nous semblait important quand même de pouvoir parler du sujet, au moins de donner un peu de visibilité au drôme, trop souvent oublié en hexagone.
Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
On est là.
Radio, radio, radio.
Pirates!
Alors, depuis le début de la crise, de manière générale, on sait que les départements, régions et collectivités d'outre-mer ont été impactés avec un délai par rapport à l'Hexagone. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des régions et en fonction des collectivités, les décisions politiques n'ont pas du tout été les mêmes. Si on regarde par exemple en Guyane, alors que nous rentrions en confinement le 16 mars, avec un virus qui circulait activement dans les régions Grand Est et en région parisienne, le nombre de cas était relativement bas, voire marginal, jusqu'à mi-mai, où les choses se sont vraiment emballées. La Guyane a recensé à ce jour 10 930 cas et 70 décès. On ne s'en souvient pas, mais la Guyane a d'ailleurs été le premier département de France à expérimenter un couvre-feu drastique, et ce, dès le 11 mai, sur tout le territoire. Il était impossible de circuler de 21h à 5h du matin. Et en fait, au fur et à mesure que la situation s'améliorait, les modalités du couvre-feu ont été revues. Certaines communes sont complètement sorties du couvre-feu et les autres y restent, mais avec des allègements au niveau de ce couvre-feu. Pour la Martinique, il y a eu quelques cas au début de la pandémie. La grande majorité des cas ont été recensés vers la fin de l'été jusqu'à présent. Donc on peut se dire que c'est peut-être le retour des gens qui reviennent assez souvent en Martinique pendant l'été, ou ben tout simplement des touristes qui sont venus. À ce jour, on compte 4732 cas pour 37 décès. Donc la Martinique a été reconfinée en même temps que l'Hexagone, il y a de ça, donc 3 semaines. Pour la Réunion, c'est un peu le même type de répartition qu'on a des cas. Il y a eu quelques cas au début de la pandémie. La grande majorité des cas ont été recensés vers la fin de l'été jusqu'à présent. À ce jour, on compte 7298 cas pour 93 décès. Et sur ces 7298 cas, il y en a 780 qui sont dits importés selon l'ARS, donc l'ARS de la Réunion, c'est-à-dire venant de l'Hexagone. La Réunion, elle, n'a pas été reconfinée. On continue sur notre tour de table. Donc, Liria, est-ce que tu pourrais nous parler justement de la Polynésie? Quels sont tes retours sur la situation en Polynésie?
Oui, du coup déjà, avant en fait le premier confinement en demi-mars, l'économie en Polynésie française avait été déjà un peu touchée par la crise du coronavirus, parce qu'il y a une partie de la population qui avait été en Chine pour fêter le nouvel an chinois là-bas, et qui avait été bloqué en fait en Chine sans possibilité de rapatriement. Et du coup, il y avait déjà ça, mais sans cas sur le territoire. Et du coup, la Polynésie française a été confinée en même temps que l'Hexagone entre mars et mai, mais il y avait très peu de contamination. Il y a eu, je crois, 60 cas entre mars et mai 2020, avec seulement une dizaine d'hospitalisations et zéro décès. Et à partir de mi-mai, il n'y avait aucune nouvelle contamination. Les frontières avaient été fermées avec confinement strict du coup depuis demi-mars, et du coup, il n'y avait plus du tout de cas. Et donc, à partir du 15 juin, les vols internationaux ont été réouverts et des nouveaux cas positifs ont été constatés à partir nouveaux profs qui étaient mutés en Polynésie française. La Polynésie française a été très touchée. Du coup, on compte aujourd'hui plus de 12 000 cas avec 62 décès pour une population d'à peu près 280 000 habitants. Et du coup, ils sont pourtant pas reconfinés. En ce moment, il y a un couvre-feu de 21h à 4h du matin. Et autant les premiers cas qu'il y avait eu avant l'été, ça avait été vraiment que sur l'île de Tahiti, aux îles de Polynésie française qui sont touchées par la pandémie dans les différents archipels. Du coup, en sachant qu'il y a 23 lits de réanimation dans les hôpitaux et qu'il y a 85 hospitalisations en cours à l'heure actuelle.
D'accord, ok. Alors, je t'ai entendu un petit peu en coupé, on comprend bien que tout pareil que pour les autres départements, il y a eu effectivement, ça s'est fait un peu en décalage, les contaminations se sont faites un petit peu en décalage. Et Donc sur, ça fait, c'est énormément de cas quand même qui ont eu lieu en été en gros. Est-ce que, enfin, du coup, les vecteurs de contamination ont plutôt été, voilà, l'activité touristique, ça, c'est, ça vient à peu près, enfin, ça vient d'où?
Bah du coup, en fait, il y a eu les nouveaux profs arrivés qui, avant d'arriver, devaient faire un test 72 heures avant leur départ, et ils devaient être négatifs. Et en fait, quand ils arrivaient à l'aéroport international qui est à Tahiti, on leur donnait de quoi faire un autotest. On sait que les autotests sont très peu fiables. Et du coup, en fait, dans ces profs-là, il y avait des profs contaminés. Et en fait, à l'époque, je veux dire, à mi-août, quand ces profs sont arrivés, ça faisait déjà 3 mois qu'il y avait 0 cas sur toute la Polynésie française. Donc, il n'y avait ouais. plus vraiment de gestes barrières, de port du masque ou quoi que ce soit, qui a fait en fait une propagation ultra rapide et ultra massive de la maladie, quoi, dans les soirées, au travail. Enfin, et du coup, maintenant, avec le couvre-feu, on peut imaginer que les contaminations se font du coup sur le lieu de travail ou du coup dans le cadre privé, genre avant le ouais. couvre-feu. Mais je pense que en fait, il y a eu surtout genre un énorme pic avant que des mesures soient prises et avant que la population réalise que ils étaient en train de prendre une vague de contamination en plein sur eux, quoi.
D'accord, super intéressant. Effectivement, bah, on se rend compte que voilà, ce sont des cas importés. À un moment où on se disait que peut-être les contaminations il n'y avait plus de contamination sur le territoire et où les gestes barrières ont moins bien été respectés. D'accord. Pour terminer sur notre tour de table, la situation en Guadeloupe. Andy, est-ce que toi, tu as eu des retours de ta famille, par exemple?
D'une manière générale, le premier confinement est intervenu un peu comme en Polynésie. En fait, les cas ont été importés par des touristes à la base, des touristes italiens, il me semble. Ce qui a créé un premier confinement un peu décalé par rapport à l'Hexagone. De l'expérience du premier confinement, moi, j'ai juste eu un retour un peu anecdotique de ma mère qui a voulu aller faire des utiliser le justificatif, aller faire des activités sportives dans 1 kilomètre. Et pour ça, elle a pris sa voiture pour pouvoir aller là où elle voulait aller. Et elle a été arrêtée par des gendarmes qui voulaient lui faire... Enfin, qui disaient qu'elle n'aurait pas eu le droit de prendre sa voiture en utilisant ce justificatif-là. Elle a réussi à se défendre parce que ma mère connaît les règles, etc. Mais les gendarmes, ils étaient là un peu pour ça, quoi. Sachant qu'en Guadeloupe, par exemple, pour pouvoir faire quoi que ce soit, même 1 kilomètre, la plupart des gens prennent leur voiture. Je pense que c'est pareil. Je sais que c'est pareil en Martinique. Je pense que c'est pareil dans la plupart des drone-com. Donc, ce premier confinement a plutôt bien fonctionné. Il y a eu très peu d'infections en communauté, de reprises. Du coup, quand j'y étais cet été, la Guadeloupe était plutôt dans une très bonne situation, surtout relativement à l'Hexagone. Il n'y avait plus de nouveaux cas à ma connaissance et surtout les services de santé n'étaient pas particulièrement touchés. Ce qui explique sans doute que pour pouvoir partir personnellement, il a fallu que je fasse un test 72 heures avant d'y aller. Par contre, une fois arrivé en Guadeloupe, à l'aéroport, la seule et unique chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de remplir une déclaration sur l'honneur en donnant mes coordonnées pour pouvoir assurer le suivi. Et surtout, j'ai absolument pas eu besoin de faire de test pour pouvoir retourner en Hexagone. Voilà.
D'accord.
Sur la période où j'y étais, moi, les choses étaient plutôt bonnes, mais peu de temps après que je reparte, à cause des vacances, il y a eu le deuxième pic, qui encore une fois est en décalé de l'Hexagone, ce coup-ci est avant le pic en hexagone, qui a mené à un confinement plus strict, un couvre-feu également, et qui ont été levés juste avant le confinement en hexagone. Voilà.
Oui, effectivement, donc c'est-à-dire que le deuxième pic a vraiment eu lieu pendant les vacances, où il y a eu, je sais, pas mal de contaminations, à la fois de personnes qui venaient, donc qui revenaient de Guadeloupe, tout comme toi ou moi, hein, et aussi pas mal de touristes qui justement n'ont pas fait attention aux mesures barrières et qui sont beaucoup contaminés dans les boîtes de nuit et autres. Et à ce jour, je sais, enfin, la Guadeloupe n'est pas confinée, enfin, elle n'a pas été reconfinée comme la Martinique l'est, par exemple.
Je tenais à dire tout de même deux détails. Le premier, c'est sur le comportement des personnes que j'ai pu observer. Il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est malgré le fait que la Guadeloupe avait été moins touchée que Paris où j'habite, les gens respectaient beaucoup plus le port du masque, malgré le fait qu'on vive beaucoup plus en extérieur d'une manière générale en Guadeloupe, sauf les touristes. L'autre détail que j'allais donner, c'est que même s'il n'y a pas de confinement réel, il y a tout de même un glissement vers du télétravail. Ma mère, par exemple, est en télétravail. Elle est prof à la fac, elle est en télétravail, par exemple. Donc, il y a tout de même toujours des mesures hybrides pour essayer de gérer la propagation et l'épidémie. Voilà.
Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai pu du coup observer en étant ici, puisque je suis en Guadeloupe actuellement. Et c'est vrai que les gens ont tendance à quand même à beaucoup respecter les gestes barrières, à porter le masque et à continuer à se désinfecter les mains le plus régulièrement possible. Pour la suite de l'émission, je vous propose de nous attarder sur la Guadeloupe. C'est pas par favoritisme. Mais c'est parce que c'est ce dont je suis le plus à même de vous parler, car ayant vécu là-bas. Aussi parce que la Guadeloupe concentre un certain nombre de particularités qui peuvent être intéressantes à analyser. Et enfin, parce que la situation là-bas peut être extrapolée à la situation des autres territoires et collectivités d'outre-mer. Toujours intéressant de s'intéresser à la situation des Broms et des Com, les départements, régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, car ce sont les laboratoires des situations sociales. Ce sont dans ces territoires qu'on peut voir avec une loupe, par rapport à l'Hexagone, les inégalités sociales et raciales de notre société. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi qu'on s'attarde spécifiquement sur la Guadeloupe. En Guadeloupe, il y avait des craintes toutes particulières liées à la situation de l'archipel. On a de nombreuses fois entendu parler des comorbidités au début de la crise, qui sont en gros les facteurs aggravants de la maladie, faisant qu'une personne a plus de probabilité d'être gravement atteinte, voire de mourir. Le diabète était l'une de ces comorbidités et les populations antillaises, de manière générale, y sont plus sujettes qu'en métropole, en moyenne jusqu'à 2 fois plus. Mais aussi et surtout, la plus grande crainte de la population guadeloupéenne était celle du CHU à Pointe-à-Pitre. Andy, est-ce que tu pourrais décrire un peu la situation du CHU de Pointe-à-Pitre à ce jour? Bon, sans rentrer complètement dans le détail, on n'est pas des spécialistes, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu as quelques petits éléments de contexte?
Machin brûlé. Plus sérieusement, il y a 3 ans, ils ont perdu 4 blocs opératoires, le service de maternité et le service de réa. Le service de réanimation qui est un tout petit peu important dans le cas du Covid-19. Donc, en 3 ans, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place pour pouvoir pallier aux déficiences. Le service de réanimation a été remis en place. Le service d'urgence a été adapté et agrandi, mais en fait, il faut voir comment il a été agrandi. Il a en partie été agrandi avec des chapiteaux qui sont devant l'hôpital. Oui, des chapiteaux comme pour une kermesse. Le service de maternité a été déplacé à la polyclinique, mais il faut savoir que la polyclinique, c'est là où mon père est né il y a 50 ans et je ne suis pas sûr qu'elle ait été rénovée depuis. Et une partie des services, surtout au moment de la gestion du Covid, a été délocalisée au centre hospitalier de Basse-Terre. Du coup, pour ceux qui ne verraient pas la Guadeloupe réellement, la Guadeloupe est divisée un peu en 2 pôles. La préfecture à Basse-Terre est excentrée dans le sud-ouest de l'île, et Pointe-à-Pitre, où se trouve le CHU, est plus centrale à l'île. Dans le cadre de la gestion du Covid, comme c'est le CHU qui a le plus de moyens, entre guillemets, c'est là où la majorité des traitements Covid et les unités Covid sont situées. Et les patients non-Covid, surtout les patients en réanimation, mais non-Covid et les opérations non-Covid, ont été déplacés sur le centre hospitalier de Basse-Terre. Donc les 2 centres se relaient en fait en fonction de la situation de chaque patient et l'évolution de leur pathologie. Mais par-dessus ça, il faut rajouter que en ce moment, sur tous les centres hospitaliers de la Guadeloupe et des îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, que ce soit dans le public ou le privé, il manque 176 postes de médecins et de soignants. Sur ces 176 postes de médecins et de soignants qui manquent, il y en a 68 qui manquent au CHU de Pointe-à-Pitre seulement. Donc, ils en sont à un stade où ils ont obtenu une dérogation de l'État pour pouvoir engager des médecins diplômés hors UE, principalement des médecins cubains. Sauf que le processus est encore en cours, donc il y a cette déficience au niveau des personnels qui est très présente, et d'ailleurs en ce moment, enfin jusqu'à récemment, il y avait un mouvement social de la radiologie qui exprimait ses manquements au niveau des personnels et des moyens matériels, et qui soulignait principalement que même s'ils ont la tête sous l'eau à cause du Covid actuellement, les problèmes sont bien antérieurs au Covid en fait. C'est une situation qu'on a laissé se dégrader petit à petit, qui a atteint son paroxysme avec le Covid. Et de l'autre côté, il y a les soucis matériels qui ne peuvent pas être remplis parce que le CHU de Guadeloupe a une énorme dette auprès de ses fournisseurs. Donc les fournitures en matériel prennent du temps, sont ralenties, sont soumises au remboursement de ces dettes et de la gestion financière du CHU. Voilà.
D'accord. Effectivement, c'est intéressant de souligner le fait que voilà, que le Covid a fait exploser, on va dire, enfin, en tout cas encore plus mis en évidence la situation du CHU de Pointe-à-Pitre, mais qui était déjà bien connue des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens qui avaient manifesté après l'incendie de 2017, qui avaient fait des grèves pour justement montrer l'état de délabrement du CHU de Pointe-à-Pitre, et on a pu en entendre parler dans certains médias hexagonaux tels que France Télévisions. Et voilà. Il y a aussi un autre facteur dont on parle un peu moins que celui du CHU. Il y a celle de l'eau. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, certaines communes n'ont pas accès à l'eau. Et oui, en France, en 2020, en France, on se retrouve avec des communes qui n'ont pas accès à l'eau. C'est quand même fou. Sur l'île aux belles eaux, quand même, c'est vraiment pas mal. Donc ces communes se retrouvent avec des coupures très régulières. Donc en fait, le problème, c'est la vétusté des canalisations. On estime qu'il y a 50% de l'eau qui se perd dans les canalisations. Et donc, il s'agit d'une situation qui est ancienne. Depuis 30 ans, ça dure. Et c'est aussi une situation qui est très complexe. Si on devait la résumer, il y aurait à la fois un manque de finances publiques, puisqu'il faudrait revoir l'entièreté du réseau de canalisation, mais aussi la multiplicité des acteurs pour la distribution et ou l'assainissement de l'eau. Donc, problème de délimitation flou des responsabilités. Tout le monde est coupable, donc personne n'est responsable. Andy, est-ce que tu sais si ces acteurs sont des acteurs privés, c'est des acteurs publics? Comment se répartissent les responsabilités?
Je vais faire quelque chose de fou, je vais dire quelque chose de bien sur le gouvernement. Leur côté autoritaire a un avantage. Ils ont décidé de retirer un certain nombre de compétences en fait au niveau politique. Le problème, comme tu l'as dit, date d'il y a 30 ans en fait, et en partie dû à l'éclatement des responsabilités qui amène à un éclatement de l'accaparement des situations de pouvoir. En fait, c'était à chacun qui défendait sa capacité à vendre un appel d'offres, sa capacité de gestion, et puis simplement, pour la symbolique, avec l'évolution des différents statuts, on s'est retrouvé dans une situation où maintenant, ça c'est vrai sur tout le territoire français, la gestion de l'eau et de l'assainissement, normalement, et la capacité des EPCI, ce qu'on appelle en général les communautés d'agglomération, les communautés de communes. En Guadeloupe, la situation jusqu'à récemment était assez ridicule, où on avait soit des EPCI qui avaient la compétence, comme dans le cas par exemple de Cap Excellence dans le centre de Lille, ou de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre dans le sud de l'île. Soit on avait des communes qui y allaient toutes seules, qui s'étaient vues déléguer le pouvoir par leur EPCI, par exemple Lamantin, Capesterre-Belleau. Soit on avait des groupements mixtes qui regroupaient plusieurs EPCI, comme le SIAG. Ce dernier étant un peu le cœur du problème, c'était le plus gros acteur, et que en plus de ses compétences de gestion, c'était aussi l'organisation qui vendait l'eau à un certain nombre des plus gros EPCI, dont Cap Excellence, la communauté d'agglomération du Nord Basta, etc. Tout ça vient globalement, après un processus qui a duré environ un an politiquement, il y a un an, la région Guadeloupe, le département toutes les grandes communautés d'agglo ont signé un accord de principe pour la création d'une société unique de gestion pour toute la Guadeloupe continentale. Ceci sera acté au 1er septembre 2021 par un acte du Conseil d'État. Et avant ça, au 1er janvier 2021, la SIAG sera dissoute parce qu'elle est complètement ruinée, et que c'est en partie pour ça que toutes les installations qui sont sous sa charge n'étaient pas entretenues. À côté de ça, à plus court terme, la préfecture a pris la compétence d'un certain nombre de communautés d'agglo pour pouvoir détecter et colmater des fuites. Je crois qu'ils en sont à 50% des fuites détectées colmatées actuellement. Ils ont réussi à réduire les pertes d'eau de 20%. Ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Mais on parle de tellement loin, aller dans le bon sens, c'est un pas.
D'accord, ok. Ces trois facteurs, du coup, à la fois justement l'eau, l'hôpital et les comorbidités très présentes sur les territoires, aurait pu donner une situation vraiment explosive en Guadeloupe. C'est important de les analyser quand on retrouve des situations un peu classiques, les coupes budgétaires et paupérisation des services publics. Donc là, on le voit notamment au niveau du CHU de Pointe-à-Pitre, mais aussi les coupes budgétaires qui impactent directement le réseau de canalisation et la libéralisation à outrance de services d'utilité publique et une population qui pâtit de ces politiques. Des choses que l'on peut extrapoler à plus large échelle, bien évidemment, et qui nous rappellent un peu ce qui peut se passer en France hexagonale. Donc là, on a vu effectivement les conséquences de les facteurs qui auraient pu faire que c'est terrible. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur l'économie un petit peu de la Guadeloupe. On va toujours rester focus sur la Guadeloupe. En préambule, donc je précise qu'on parle bien de spéculation quant à la situation économique. Je pense qu'il faudra attendre la fin de l'année pour pouvoir savoir comment l'économie guadeloupéenne se portera. Je pense aussi que ce qu'on peut dire, c'est que la situation de la Guadeloupe peut, là encore, plus ou moins être extrapolée aux autres îles. Donc, selon les acteurs locaux que j'ai pu rencontrer, ici, les effets de la crise vont être particulièrement violents en Guadeloupe, parce qu'on sait que y a une partie significative de l'économie qui repose sur le tourisme. Et donc ce tourisme a été en berne pendant la période de confinement. Concernant justement le tissu économique, on sait qu'il y a une grande majorité de TPE et PME qui sont relativement fragiles. Est-ce que tu peux nous parler, Andy, de ces acteurs, donc la répartition un petit peu TPE-PME versus grandes entreprises, comment ça se répartit. Une chose aussi pour nos auditeurs, donc je pense qu'on peut parler aussi de la sectorisation un petit peu racialisée de l'économie. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, je sais que c'est un petit peu caricatural, mais...
On aimerait bien que ça soit caricatural, parce que c'est vrai. Ce qui s'est passé, en fait, l'économie actuelle qu'on a en Guadeloupe, en Martinique, dans une autre mesure en Guyane et en Réunion, est l'héritage de la départementalisation de 1946, mais le principal héritage de la départementalisation de 1946 est d'avoir injecté un certain nombre de fonds dans l'économie, sans revoir les hiérarchies sous-jacentes, notamment les hiérarchies de capital qui existaient. Donc, les personnes qui avaient le plus de capital, qui s'avèrent, dans le cas de la Martinique, être généralement des descendants d'esclavagistes, dans le cas de la Guadeloupe, c'est plus complexe, parce que il n'y a pas de béquets, comme on dit, les béquets qui sont les descendants d'anciens propriétaires, esclavagiste, j'allais dire d'anciens propriétaires terriens, mais pas anciens du tout, ils possèdent toujours... En fait, c'est ça, si je devais ordonner la chose. La base de la richesse dans nos îles vient de la quantité de terres qu'on possède. Les plus grands propriétaires terriens, ce sont ceux qui ont réussi à transférer majoritairement leur capital après la départementalisation dans de nouvelles activités, tout en gardant un versant de l'agriculture.
La tout comme justement les béquets, normalement on peut citer aussi le groupe Bernard Ayot, par exemple, qui a réussi à installer son... Enfin, plutôt à bien... je peux dire... Il a son capital qui lui est assuré sur les différentes îles avec ses réseaux de distribution, Carrefour, etc. Et après, il s'est diversifié beaucoup dans le reste de la Caraïbe, mais aussi en certains pays africains, où il a pu justement continuer à faire croître sa fortune. C'est ce à quoi tu fais référence?
En partie, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est justement le fait que des personnes comme les Bernard Ayotte, les Huyghe des Pointes, l'élite en partie, le fait que ces grandes familles aient réussi à garder une mainmise sur les terres, principalement en Martinique, un peu moins en Guadeloupe. En Guadeloupe, la situation était plus mixte. Les plus grands possesseurs de capitaux en Guadeloupe ont toujours été externes à l'île, en général hexagonaux, parfois des multinationales. Par exemple, l'une des grandes différences, les grands hôtels en Guadeloupe sont possédés par des grands groupes internationaux, pas en Martinique.
D'accord.
C'est des petits détails comme ça. Et l'une des grandes différences, c'est qu'en Guadeloupe, de plus petits propriétaires ont réussi à former du capital. Ça a créé des catégories intermédiaires, d'une part raciale, notamment certains anciens propriétaires indiens qui ont aussi réussi à créer de grandes entreprises comme les grands propriétaires blancs, mais aussi certains patrons noirs qui ont profité d'accumulations de capital venues d'avant pour pouvoir créer certaines structures. Donc, si on devait schématiser, on a les très grandes entreprises, principalement dans l'import-export et la distribution, et le BTP qui sont possédés par les anciens grands blancs. Des entreprises plus intermédiaires qui vont avoir des activités à grande plus-value, mais pas aussi avancées, et surtout des activités de captation des aides de l'État. Donc, ce qui est BTP,
assainissement,
ouais. les choses qui permettent de capter les transferts de revenus de l'État. Et puis, on a un troisième corps qui explique le grand nombre d'entreprises. Enfin, la Guadeloupe est l'un des territoires où il y a le plus grand nombre d'entreprises par habitant. Et en fait, ce troisième corps, qui s'est constitué sans capital, il a recréé une économie entrepreneuriale, plus de subsistance, en fait, qui sert à remplacer l'emploi qui n'est pas offert par les grandes entreprises, qui n'a pas pu être offert par l'État. Étant donné que le gros des Antillais et des Antillo-Guyanais travaillent pour l'État, en fait. C'est là que la majorité des gens travaillent. Voudrait dire que vis-à-vis de la crise actuelle, quand on parle de l'aide aux entreprises, de l'aide aux patrons, etc., il faut bien distinguer entre les entreprises qui sont réellement des entreprises capitalistiques et avec un héritage dans la hiérarchie sociale qui est hérité de... de 300 ans globalement, et qui en plus, dans le cas des plus grandes entreprises, ne sont pas les activités les plus impactées. L'import-export, il va continuer à fonctionner. S'il n'y a pas d'import-export en Guadeloupe ou en Martinique, les gens meurent de faim. Donc il va continuer à fonctionner. Tandis que les activités plus de subsistance, en réalité, même si ce sont des entreprises, en réalité, les personnes qui les dirigent se rapprochent plus de travailleurs, vu qu'ils ont créé leur activité, non pas tant pour pouvoir l'étendre, mais pour pouvoir créer l'emploi qu'on ne leur offrait pas.
Tout à fait.
C'est des choses à prendre en compte quand on discute de l'impact de la crise.
Ouais, donc effectivement, voilà, c'est corps. Donc il y a pas mal de TPE, PME qui sont fragiles, qui, comme tu le dis, voilà, créent des emplois de subsistance. Je crois que il me semble que dans nos discussions, on avait eu l'occasion de se dire que c'était voilà des entreprises qui étaient relativement fragiles. La plupart font clôture juste peut-être 2 ans après. Je me souviens plus exactement, mais elles ne sont pas forcément ultra robustes. Et je pense qu'on peut dire que ces entreprises seront plus impactées par le coronavirus que les entreprises comme celles d'import-export, où effectivement, il y a une dépendance de la part du peuple, tout simplement. Parce que si jamais les docks ne tournent pas, si jamais les carrefours ne tournent pas, etc., la population meurt de faim. Qu'est-ce que tu penses de la situation du coronavirus justement par rapport à ces petites entreprises? Quel va être selon toi l'impact qu'il va y avoir? Est-ce que tu as eu un peu...
Le gros problème de ces entreprises, comme tu l'as dit tout au début de la présentation, ça va être que la majorité de leur activité repose sur une industrie complètement exogène qui est celle du tourisme. Et qui non seulement est une industrie exogène, mais qui en plus est une industrie vecteur de la pandémie. Donc c'est un double coup. Je ne sais pas quelles seront les ramifications à long terme, parce que on l'a bien vu, le premier réflexe de... Je ne sais plus si c'était le ministre des Transports ou quoi. Non, parce que c'est Elisabeth... Je ne sais plus. Un secrétaire d'État qui avait sorti pour... Pour vos vacances de Toussaint, n'hésitez pas à voyager dans les drones.
Oui, effectivement, ouais.
Oui, d'accord. Donc, d'un côté, on a une activité économique qui repose entièrement sur la consommation de personnes ne résidant pas sur place et une situation où l'optimum sanitaire est d'empêcher le maximum de personnes ne résidant pas sur place d'entrer sur le territoire. Donc, c'est un équilibrage à avoir et c'est un équilibrage qu'il faudrait au mieux pouvoir avoir le plus proche du terrain. Malheureusement, je ne sais pas si ça va forcément être le cas. On a pu observer des situations assez cocasses où, par exemple, à cause de la fermeture des frontières, un Guadeloupéen ne pouvait pas aller à la Dominique. Par contre, un Hongrois aurait pu venir en Guadeloupe parce que les frontières étaient toujours ouvertes avec l'UE. C'est le genre de situation ambivalente. En fait, ça s'exprime dans la crise actuelle, mais c'est le genre de situation ambivalente qui traverse toutes nos décisions politiques, en fait.
Oui, effectivement, c'est vrai que par rapport aux accords économiques qu'il y a entre la Guadeloupe et la Martinique sont des départements français, ce qui se passe, c'est souvent ça, c'est qu'on se retrouve avec des situations un petit peu absurdes qui ne représentent pas, enfin qui ne sont pas en accord avec les réalités locales. Comme tu parlais de ça, tu parlais du Hongrois qui pouvait venir pendant le confinement, là où un Dominicain n'aurait pas pu venir. On peut le voir aussi dans l'économie de manière générale. On traite beaucoup plus avec les acteurs européens plutôt qu'avec l'arc caribéen. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le coronavirus fait un peu ressortir ces absurdités. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, ben, je pense là, c'est le moment où on peut réellement extrapoler. Comme on est des territoires très fragiles, il y a beaucoup de choses qui se remarquent plus violemment, qui apparaissent plus violemment, mais en vrai, comme pour tous les autres territoires et tous les autres systèmes politiques depuis le début de cette crise, elle ne fait que révéler les fractures qui existaient déjà. Moi, la plus grande surprise que j'ai pour l'instant, c'est qu'on n'ait pas encore eu de mouvement social d'envergure sur des lignes de tension, plus de race et de classe qu'on en a eu pour l'instant. Il y en a eu autour de l'hôpital. Après, l'hôpital, c'est une situation un peu spéciale. Personne ne va aller créer un gros mouvement autour de l'hôpital alors qu'on est en train d'en recevoir un nouveau qui sera construit pour 2022. C'est assez compréhensible.
C'est vrai que moi aussi, j'ai été... Ouais. C'est souvent, je voulais dire que j'avais été aussi très surpris du fait qu'il n'y ait pas... déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas plus explosé que ça par rapport au coronavirus, le nombre de cas, quoi qu'on en a eu quand même beaucoup, hein, 131 décès rapportés à la population, c'est quand même non négligeable. Après, c'est vrai que je pense que ça, si ça avait été perçu par la population comme étant plus violent, ça aurait peut-être pu... exploser. Je pense que les Guadeloupéens sont aussi très conscients du fait que, voilà, que la situation est tendue actuellement avec la circulation du virus. Mais j'ai beaucoup entendu, comme d'habitude, l'UGTG et l'Ido Mota prendre position par rapport à ça. Et je ne sais pas s'il y a eu...
C'est eux qui ont été les premiers à réclamer que l'ARS commande des tests. Bon, ils n'ont pas réclamé que ça. Mais la deuxième réclamation est un peu plus farfelue.
Alors, juste pour les gens qui nous écoutent, ARS, ce sont les agences régionales de santé, pour ceux qui ne le savent pas, et qui, en fait, s'occupent de tout ce qui est coordination des actions de santé sur les régions. Chaque région a une ARS. Elles agissent de pair avec la sécurité sociale, les URSSAF, etc., pour pouvoir coordonner les actions de santé. Donc, excuse-moi, Andy, je t'ai coupé, tu étais en train de dire.
Oui, non, je sais pas, c'est parce que j'étais en train de me concentrer sur une question dans le chat qui a déjà été posée plus précisément vis-à-vis des étudiants. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut retourner voir nos familles en Guadeloupe et en Martinique. Techniquement, on peut, mais on n'a aucune forme de priorité, en fait.
Alors après, techniquement on peut, et en pratique on peut aussi, hein. Je suis en Guadeloupe.
Oui, c'est en pratique aussi, mais c'est qu'en fait on n'a aucune forme de priorité, on peut autant y aller que n'importe quel hexagonal. Après, la grande différence, c'est que nous on y va, on ne va pas à l'hôtel. Les hôtels, ils sont fermés. Les hôtels et les restaurants, ils sont fermés.
Ouais, tout à fait. Mais voilà, effectivement, pour revenir au au sujet d'avant, c'est vrai que l'UGTG et Idomota, ils ont été quand même pas mal actifs pendant la crise. Ils ont demandé les tests. Ils ont aussi, quand même, bon, après, c'était leur rôle. C'est vrai que c'est une crise qui est à plusieurs variables, hein. Il faut réussir à la fois à concilier la situation économique qui peut être désastreuse pour les gens et le fait que la situation sanitaire qui peut l'être tout autant. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'UGTG avait demandé ce qu'on bloque l'île.
Pour ceux qui ne sauraient pas, l'UGTG, c'est l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe. C'est le syndicat principal sur l'île et les descendants d'un syndicat indépendantiste. Officiellement, il est toujours indépendantiste.
Oui, tout à fait. Et je pense que ça se reflète aussi beaucoup dans les manifestations qu'ils font et dans leur manière de manifester. Mais c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que deviendra, enfin, qu'est-ce qui se passera au sortir de la crise, surtout si les TPE et PME sont violemment impactés et que le chômage augmente, sachant qu'on est déjà à des taux de chômage qui explosent, des taux de pauvreté qui explosent. Quel est ton avis par rapport à ça? Quelles sont tes spéculations, Andy?
Au niveau du tissu économique, comment dire, vraiment, il y a un cœur vulnérable. C'est TPE qui globalement servent à remplacer des emplois et qui se reposeraient sur l'industrie du tourisme principalement plus que sur des industries dépendant de transferts de l'État. Après, l'avantage, entre très gros guillemets, de la structure du marché de l'emploi en Guadeloupe et en Martinique, c'est que 50% des actifs occupés sont fonctionnaires de l'État. Donc ça fait un gros de personnes qui sont protégées, entre guillemets, vis-à-vis de ça. On peut supposer qu'au niveau de l'activité économique, peut y avoir un rattrapage qui pourra avoir lieu assez rapidement, vu que tous ces emplois-là ne seront pas perdus, que tous les emplois dans les grandes entreprises ne seront pas perdus. Après, d'une manière générale, on revient sur des problèmes structurels qui existaient avant. Ce sont des économies qui manquent d'activités productives sur place et pour lesquelles le système de compétition et d'accumulation de capital ne sont pas adaptés, tout simplement. La preuve, la très grande majorité des entreprises sont profondément incapables d'accumuler du capital.
Voilà. Oui, tout à fait. Après, effectivement, on peut discuter de la situation particulière de la Guadeloupe ou de la Martinique ou des autres îles qui sont justement des îles et sur lesquelles, donc là, c'est structurel. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise arrive avec assez de capital et elle peut truster tout un secteur, comme on peut le voir avec les familles Biquet sur l'import-export et sur la distribution. Mais oui, c'est effectivement, ce sont des, comment dire, ça peut être vraiment terrible pour l'économie et pour les gens. Et ce sont des problèmes de fond qui doivent être, qui devraient être adressés bien en dehors de ce cadre du coronavirus.
C'est ça un peu le problème, c'est que c'est le fond du problème. La crise n'a fait que faire ressortir les fêlures et les fractures qui existaient d'autant plus. Et réussir à les régler au sein... c'est très typiquement le moment de se rendre compte qu'il faudrait peut-être un modèle de développement économique moins basé sur le tourisme, parce que c'est une source de création de richesses, entre guillemets, exogènes. Un système économique qui soit un peu plus basé sur la coopération de ces petites entreprises, parce que quand on a des réclamations au niveau des patrons en Guadeloupe, on entend le MEDEF et la CGPME, mais ce gros cœur de très petites entreprises qui a ses propres revendications, qui a ses propres modalités, ses propres manières de faire l'économie et d'avoir une activité qu'on n'entend pas. Et on a, d'une manière générale, une structure sociale qui reflète une structure économique mal adaptée et inégalitaire. Et on rajoute une pandémie dans tout ça. Et globalement, je pense que les plus grosses conséquences ne seront pas sanitaires, elles seront économiques et sociales, et elles apparaîtront à moyen et long terme.
Ouais, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est comme toujours, les situations de crise font ressortir les difficultés qui étaient déjà rencontrées par les sociétés. Donc là, avec l'exemple de la Guadeloupe et ses particularités, tant que par l'hôpital, enfin la situation du CHU, tant par aussi les facteurs et maladies des gens, et aussi l'état des services publics de manière générale, l'économie, on peut voir que le coronavirus a fait un petit peu ressortir les difficultés que rencontraient déjà les gens en amont du coronavirus. C'est assez intéressant. Je pense que c'est un bon sujet d'analyse pour justement nos amis hexagonaux qui peuvent voir à travers la situation des DROM où est-ce que le capitalisme, en gros, est une société où les capitaux sont détenus par certaines catégories raciales, où est-ce que ça peut aller, tout simplement. Notre émission touche à sa fin. J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des invités, donc Lyria, Andy, merci pour vos interventions. Merci de nous avoir permis de nous décentrer un peu et de parler un peu des Outre-mer, souvent oubliés alors qu'il s'y passe tant de choses intéressantes et qui peuvent nous inspirer. Des choses qui peuvent nous inspirer, nous qui vivons en France hexagonale, quant à la gestion des services publics et de l'économie. C'était Radio Pirate et on vous souhaite un bon week-end. L'édition féministe de demain sera un entretien avec Émilie Robert, autrice du blog Crêpe Georgette. Quant à nous, nous nous retrouverons vendredi prochain pour vous dire qu'on ne s'en bat pas la race.